Bonsoir. Apparemment, ça ne rigole plus avec la justice de la RDC. En quelques jours seulement, la justice congolaise a interpellé plus de 5 chefs d'entreprise impliqués dans la réalisation des travaux du programme d'urgence du président Félix Tshisekedi, dénommé programme de 100 jours. Ces personnes sont poursuivies pour graves soupçons de détournement et de mauvaise utilisation de fonds mis à leur disposition. C'est notamment le cas de Safrica, SOVD, Office des routes ou encore la société Somibo, dont les responsables ont ainsi été interpellés. Cependant, le point qui sera assez sombre dans notre débat de ce soir, c'est cette série de grèves qui continue d'être observée ces derniers temps dans un certain nombre de secteurs professionnels en RDC. C'est le cas notamment des médecins et des professeurs de l'université de Kinshasa. Les magistrats qui, eux, ont tenu un arrêt de travail pendant plus de 2 semaines ont suspendu leur mouvement. Tous ces grévistes réclament, entre autres, l'amélioration de leurs conditions salariales. Pour évoquer toutes ces actualités, nous serons avec Thierry Bongo, journaliste à Africa TV, télévision qui émet de Kinshasa. Thierry Bongo, bonsoir.
Bonsoir Dona Madimba, bonsoir à tous les auditeurs de la radio onusienne et bonsoir à tous mes confrères avec qui nous allons débattre ce soir.
Mais également Freddy Chiyoyo, bonsoir.
Bonsoir Dona Madimba, bonsoir Thierry Bongo, bonsoir à toute la radio onusienne qui nous aide à chanter notre voix à travers le monde. C'est un plaisir encore. Ce soir dans la tribune de presse.
Vous êtes rédacteur en chef du média en ligne election-net.com et enfin Charles Mukendi, rédacteur en chef de la radio catholique Ditunga à Ngandajika, province de l'Omami. Charles Mukendi, bonsoir.
Bonsoir, cher confrère. Bonsoir à tous les collègues. Bonsoir également à tous les auditeurs.
À tous, bienvenue dans votre émission.
Merci.
Et voici notre première halte documentaire. Voici la revue de presse.
Bonsoir. Plusieurs sujets d'actualité ont fait la une cette semaine dans les colonnes des journaux quinois et dans les médias en ligne. C'est notamment la grève des enseignants de l'université de Kinshasa et l'interpellation de certains responsables des entreprises impliquées dans le programme des 100 jours du chef de l'État. À ces sujets, actualité.cd informe qu'un autre chef d'entreprise est aux arrêts à Kinshasa après le patron de Safricas. Il s'agit du Libanais Sama Jamal, patron des sociétés Samibo Congo et Ousmal, qui a été interpellé, auditionné et placé en détention préventive lundi après-midi à Kinshasa pour des graves soupçons de détournement d'une dizaine de millions de dollars destinés à la construction des logements sociaux dans les cadres du vaste programme d'urgence du président Félix Tshisekedi. Selon une source proche du dossier, Jamal Sami a été incapable de justifier certains montants reçus du trésor public pour la construction des logements sociaux dont il avait gagné le marché, ajoute casse-info.ca. Le potentiel est revenu sur les propos de Franck Dzongo, qui lui-même cite les cas des Béassikou sous Joseph Kabila, estime que l'actuel directeur des cabinets du chef de l'État a l'obligation de répondre à tout acte de contrôle parlementaire dès lors qu'il a posé des actes individuels par rapport à la gestion du programme des 100 jours du chef de l'État. Forum des As indique que l'arrestation du Libanais Jamal trahit des irrégularités dans les attributions des marchés. Pour dire, estime le tabloïd, les promesses de Félix Tshisekedi se heurtent au principe de la réalité politique. Après les espoirs suscités par sa volonté déclarée de lutte contre la corruption, renforcée par la nomination des nouveaux magistrats supposés plus intègres que leurs prédécesseurs, les désillusions se succèdent. La dernière en date est celle de Saut de Mouton. DigitalCongo.net rappelle qu'avant Jamal, des sources pénitentiaires ont rapporté que le DG de l'entreprise de construction Safricas Congo, David Blattner, a été transféré au centre pénitentiaire des rééducations de Kinshasa. C'est par cas en sigle, ex-prison de Makala. L'infortuné avait été interpellé le mercredi 19 février par le parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe dans le cadre des enquêtes sur l'utilisation des fonds en rapport avec les travaux de construction des Sauts des Moutons. Grève des professeurs de l'UNIKIN, actualité.cd, renseigne que les enseignants de l'université de Kinshasa refusent de reprendre les cours lundi 24 février 2020. Face à cette situation, les étudiants du département des sciences sociales, administratives et politiques de l'UNIKIN ont demandé au gouvernement congolais de trouver des solutions concrètes aux problèmes liés au secteur phare de l'enseignement. Le ministre des Lessures assure que sous la supervision du chef de l'État Félix Tshisekedi, le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba va répondre favorablement dans la mesure du possible et dans les meilleurs délais aux revendications légitimes contenues dans leur cahier des charges, rapporte politico.cd.
Merci Kéline Couté. Thierry Bongo, journaliste à Africa Africa TV, télévision qui émet de Kinshasa juste. En avant-goût, y a-t-il à ce stade une actualité non évoquée que vous voulez bien nous partager?
Bon, je voulais juste relever à l'attention de l'opinion que nous avons une fâcheuse manie en RDC de pouvoir nous laisser emporter par l'actualité. Et nous avons souvent aussi l'habitude d'oublier ce qui nous concerne particulièrement quand certains événements nouveaux se présentent. Je tiens par là à évoquer le problème que nous avons oublié Ebola. Nous avons oublié Ebola, nous avons oublié les conséquences d'Ebola sur la société qu'il faut réparer. Ebola qui n'est pas complètement terminé, mais déjà on commence à parler de coronavirus, il faut se préparer, certains même préparent un commerce de masques, il y a des commandes de masques pour Kinshasa pour se préparer de coronavirus. On a l'impression que c'est le fléau le plus meurtrier actuel, or que nous savons que Ebola a tué bien plus que coronavirus à ce stade. Le deuxième sujet que j'aimerais évoquer, c'est cette interpellation que je fais à la conscience congolaise. J'ai l'impression aussi que nous sommes pervertis par une certaine opinion, les gens que le président de la République a appelé les combattabas, qui semblent mêler les pinceaux en ce qui concerne comment agir pour changer les choses dans notre pays. Je crois que à ce stade, le combat des combattants doit être revu. Il ne suffit plus de pouvoir détruire la culture congolaise en interdisant à ces musiciens de se produire dans les salles internationales pour dire que voilà, on est en train de combattre un système. Le système ne se combat pas de la sorte. Nous invitons tous nos frères de la diaspora, du moins ceux qui pensent qu'ils peuvent changer les choses, de venir ici en RDC, en politique, créer des partis politiques, créer des mouvements de pression, comme on a vu ici avec les Lucha et compagnie, qui viennent s'associer à ceux qui travaillent déjà sur terrain pour changer les choses, avec les journalistes, créer des médias. Faites quelque chose de plus consciencieux, plus utile pour conscientiser la population afin qu'on puisse apporter ce changement. Parce qu'aujourd'hui, le changement ne concerne pas que les dirigeants, ça concerne aussi toute la population. Il y a un travail de fond à faire. Alors le combat des combattants est obsolète, il doit être revu. Je les appelle donc à bien vouloir se mettre autour d'une table et réfléchir sur ce qu'il faut faire parce que aujourd'hui, leur action vis-à-vis des musiciens congolais, des artistes congolais est nocif pour notre société. Merci. Le Congo vit de sa culture. La culture congolaise est une valeur comme le drapeau national, comme l'équipe nationale, comme l'hymne national. Merci.
Merci Thierry Bouongo. Freddy Chioyo, rédacteur en chef du média en ligne élection-net.com. Votre commentaire libre.
En fait, d'abord, j'aimerais exprimer ma pensée, une pensée pieuse en mémoire de notre ami que je qualifie de martyr de la démocratie, Rossi Chimanga, qui est tombé il y a pratiquement 3 ans aujourd'hui, 2 ans passés, depuis qu'il est décédé. J'aimerais laisser ce que apporter un témoignage à son vrai combat pour l'avènement de la passation des pouvoirs civilisés en RDC. C'est par entre autres grâce à lui que aujourd'hui la RDC a vécu l'événement historique, la passation civilisée des pouvoirs, mais également tout en souhaitant bon concert à Fally Ipupa. Je salue le retour de la musique congolaise sur la scène internationale et la fin du phénomène combat ou combat en tabac, comme disait le président Tshisekedi. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, nous devons être unis pour la nation, nous devons être unis pour la relance de notre culture musicale sur la scène internationale. Pendant au moins 10 ans, nos artistes n'ont pas su mettre le pied ou bouger une salle mythique de Paris ou de Londres. Fally Ipupa est maintenant l'ambassadeur de tous les Congolais pour le retour en force de la musique congolaise sur la scène internationale. Mais également un autre point, cher ami, cher confrère.
Très rapidement.
Je suis un peu déçu de la manière dont la SNEL devient pratiquement inexistant. En mettant fin au fond de l'estage. Au quartier Kaouka, je vous dis, le coin est presque et quasi inexistant, pendant que les abonnés payent chèrement le frais de consommation, mais vous avez du courant qui est rétabli à 1h du matin et qui est coupé à 4h, je me demande. C'est un courant mari des nuits ou c'est une femme des nuits? Comment est-ce que les gens payent leur argent à des sommes colossales? Vous avez des gens qui sont commis aux cabines Munga 5. Ces messieurs-là font la loi et vous coupent le courant au profit des gens qui ont des boulangeries, qui ont des salles de fête. et vous laisse moisir dans le noir. Et je suppose que je plaide pour qu'on puisse revoir ces comités de gestion, parce que ça fait des années et des années que les gens ont crié à ces phénomènes, mais apparemment on nous trouve de la spinelle sur la sourde oreille et ne mettent pas du saut de ceux qui font mon travail.
Merci Freddy Thioé, votre message est passé. Charles Mukendi, rédacteur en chef de la radio catholique d'Itunga, Ngandajika, province de Lomami, c'est quoi votre avant-goût informationnel?
Il y a d'abord les enseignants de Ngandajika, mais également les fonctionnaires, les agents et fonctionnaires de l'État, qui en fait ne sont pas payés. Ça fait maintenant 2 mois, ils ont reçu des messages dans leur téléphone, pour ceux qui sont des PPL mobiles, mais ils n'arrivent pas toujours à être payés. Depuis 2 mois, ils attendent longuement l'arrivée de la banque. Il y a aussi ce débat qui enfle toujours sur la problématique du refus de Ngandajika d'appartenir au Kasaï oriental. Après la marche, il y a les débats entre députés. Il y a un député de Lomami qui, en fait, a dénoncé le fait qu'un député du Kasaï oriental, parce qu'il y avait beaucoup de députés dans la marche de vendredi dernier, et ce député est venu du Kasaï oriental, pour lui, il n'était pas question, et alors les débats ont enflé. En fait, on a senti que le ton est en train de monter autour des retours de Ngandajika au Kasaï oriental. Ce que je veux dire, je demande au gouvernement, parce que gouverner, c'est prévoir, de prêter un peu attention à cette problématique, parce que si on ne fait pas très attention, on risque de vivre des radicalisations, ce qui n'est pas bon. On va courir peut-être derrière des crises. Il est temps pour que le gouvernement de la République, le Premier ministre et le Président de la République se penchent sur le problème de Ngandajika, parce que ça fait longtemps que des pétitions ont été signées, maintenant ce sont des marches. Et quelle sera la prochaine étape? Ça va être compliqué. Il faut qu'on puisse en tout cas prévoir, prévenir tout cela. Gouverner, c'est prévoir.
Merci Charles Mukendi. Votre réaction nous oriente vers notre premier thème de ce soir. Un programme de 100 jours du chef de l'État. La justice congolaise procède depuis quelques jours à l'interpellation de certains chefs d'entreprise impliqués dans la réalisation de travaux de ce programme. Ces personnes sont poursuivies pour graves soupçons de détournement et de mauvaise utilisation de fonds mis à leur disposition. C'est le cas notamment de Safrica, SOVD, Office des routes ou encore la société Somibo, dont les responsables ont été interpellés. Les détails avec Paul Matendo.
Le patron de Safrica, dont certaines sources indiquent qu'il a rejoint depuis quelques jours la prison centrale de Kinshasa, a été interpellé pour soupçon présumé de détournement sur l'enveloppe allouée à la construction des ponts aériens, communément appelés sautes de mouton, sur certaines principales artères de Kinshasa. Safrica se serait défendu, expliquant qu'elle n'aurait reçu que 40% de l'argent promis par la présidence au 16 octobre, motif de l'arrêt des travaux qui avaient été constatés un moment. 3 millions supplémentaires auraient été débloqués et versés cette semaine, quelques heures avant l'interpellation du patron de cette entreprise de BTP. Le patron de Somibo, quant à lui, a été interpellé dans le cadre de l'exécution de 1500 logements sociaux en raison de 300 maisons à Kinshasa, Bukavu, Mbujimayi, Kananga et Matadi. Une enveloppe de plus de 15 millions avait été versée à Somibo sur un total de près de 50 millions de dollars prévus. C'est depuis lundi que le patron de cette entreprise est interpellé. Il n'aurait pas su, selon les sources consultées, justifier l'utilisation de cette première enveloppe reçue. Un certain nombre d'autres personnes impliquées dans l'exécution du programme dit de 100 jours ont déjà été interpellées ces derniers jours. Et l'exercice devrait se poursuivre, selon le gouvernement, dans le cadre de l'audit général de la réalisation de ce programme d'urgence du président Félix Tshisekedi.
Freddy Thioé, enfin le gouvernement réagit pour essayer d'enquêter un peu sur les soupçons de détournement de fonds publics et d'auditer les chantiers dits des 100 jours. Freddy, cette réaction du gouvernement est-elle, selon vous, une satisfaction?
Vraiment une grande satisfaction, dans la mesure où il faut d'abord saluer cette nouvelle dynamique qui s'installe dans notre pays, le contrôle, la rélevabilité, ce qu'on n'a pas vu dans le passé. Rappelez-vous, dans ce pays, Chadona Madimba, on a commencé à construire cet éléphant blanc ici à la gare centrale avec la Sudirakine. Jusqu'aujourd'hui, on n'en parle presque pas. Et il y a beaucoup de chantiers pareils dans ce pays. On ne sait pas, on ne sait pas où habiter. Mais aujourd'hui, avec cela, tout ce qui est dit, aujourd'hui, tout le monde veut savoir combien on a dépensé, combien cela est parti, comment est-ce que l'argent a été distribué pour savoir réellement pourquoi ces résultats, comment est-ce que ce qu'on voit n'est pas compatible, ne correspond pas aux chiffres sortis des caisses de l'État. Donc, c'est un changement que tout le monde, que tous saluons. Pour l'affaire de logements sociaux, j'ai pénétré les dossiers et j'ai vu ce qui suit. Ces dossiers remontent en 2018, Kabila encore au pouvoir, avec le ministre du développement rural, M. Bitakwira, avec la société Samibo, dont le patron se trouvait M. Jamal Sami. Alors, le dossier n'a pas été validé et s'est laissé en suspens comme ça. C'est après que Tshisekedi de prendre le pouvoir, on écrit des dossiers, le ministre Moulande valide et le chef a donné sa bénédiction.
Alors, Frédéric Chioyo, selon vos enquêtes, ces habitations étaient des logements sociaux et pour ce cas, j'imagine destinés à une catégorie de la population ou étaient-ce des habitations pour le personnel des services de sécurité, notamment les policiers et les militaires?
Jadis, ces habitations devraient être loties à la cité Maloukou, à l'époque, dans celle-là, les gens de l'histoire, mais c'est sur demande du nouveau chef de l'État qui a estimé qu'on puisse le placer au camp Tchatchi pour le bonheur du personnel militaire et policier. C'est ça un peu, et cela a été évalué par le Conseil des armes de sécurité, M. François Beya, avec le soutien du chef de cabinet, M. Vital Kamerhe.
Alors,
les documents me renseignent.
Alors, il est question aussi, oui, selon les informations que nous avons, qu'un budget de presque 60 millions de dollars était prévu.
60 millions de dollars américains.
Voilà, était prévu pour ces constructions. Son responsable a été interpellé. Est-il fautif selon vos enquêtes ou pas?
Je ne voudrais pas essayer de m'ériger en juge, mais au moins j'aimerais essayer de rétablir le fait. Le fait est que il a été demandé à monsieur, à la société Samibo Congo, d'ériger 1500 logements à la cité de Kanchachi. À ce stade, à raison de 300 par 5 provinces pilotes, vous avez Kinshasa, le Kasai oriental, le Kasai occidental, vous avez Mbujimayi et vous avez le Congo central, précisément à Matadi. Aujourd'hui, à ce stade, toute la commande est déjà sur l'eau, aux différents ports, notamment le port de Dar es Salaam, le port de Lobito, à la frontière avec entre Kananga et l'Angola, et mais également au port de Matadi. Et dans le contraire, il est convenu que le gouvernement puisse s'occuper du dédonnement de ces matériels, puisque au niveau de l'acquisition à la société turque, à ce Carnot, C'est la compagnie Saint-Bou qui a payé l'argent, mais maintenant le contrat est prévu que le gouvernement assume sa responsabilité à travers des exonérations pour qu'on puisse donner le marché qui est arrivé et les amener jusqu'au lieu du lotissement. Et c'est là que M. Amibo devrait intervenir. Ce qui a été fait à Kinshasa, le matériel est arrivé au Kanchachi et aujourd'hui on a plus ou moins 290 maisons déjà construites.
À Kinshasa.
C'est vérifiable, rendez-vous au Kanchachi, l'accès est libre, et vous allez contempler que les cités jadis, un terrain vierge, est maintenant occupé par des grands bâtiments, il ne reste plus qu'à devenir urbanisé les voies qui séparent les différentes maisons. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un peu injuste la mesure où, mon cher, raisonnons par absurde. Imaginons qu'une maison une maison requiert un jour pour sa construction, par absurde. Il faut 1500 maisons. C'est là où vous faudra plus ou moins 3 et quelques mois. Mais aujourd'hui, Samibo, vous construisez 300 maisons en 4 mois parce que les travaux commençaient en septembre. Nous sommes maintenant au mois de février. Pratiquement 5 mois, on a plus ou moins 290 maisons.
Frédéric Chioyo,
le travail est bien fait.
Quelle est la situation dans les 4 autres sites souhaités?
Alors, il y a à peine que 4 jours que le gouverneur Maweja a octroyé le terrain Senebo et on a placé déjà on a commencé à assainir le chantier d'après les informes à possession. Mais et on attend maintenant que chaque province ou le gouvernement à travers ses gouverneurs donner accès à ce que ces enjeux puissent arriver au lieu et puis ça peut intervenir. Je ne suis pas son avocat, moi j'ai présenté le dossier, je comprends que quelque part, c'est comme si il y a une main politique dans cette affaire.
Qu'en est-il des fonds déjà débloqués en faveur de Somibo à ce jour?
Oui, du côté Somibo, on m'a laissé entendre que tous les fonds ont été débloqués et puis il n'y a rien qui manque. De leur côté. Somibo a rempli sa part des contrats.
Merci Freddy Tioyo. Thierry Bongo, partagez-vous l'avis de Freddy Tioyo. Il a l'impression de dédouaner, sans être avocat de Somibo, mais de dédouaner Somibo dans les soupçons ou accusations déjà portées à l'encontre de son responsable.
Non, en fait, Freddy, je comprends qu'il puisse manipuler le dossier de telle enseigne, mais moi, si je prends l'angle du ministre des Finances, il faut comprendre que ce sont des dossiers qui ont été ficelés avant qu'ils ne puissent être à ce stade, à ce poste de responsabilité. Il est de sa responsabilité de bien suivre. S'il soupçonne qu'il y ait une surfacturation sur ce dossier, il est dans son droit en tant que ministre des Finances d'y voir clair. Et dès lors qu'il y a une action judiciaire qui est entrée en vigueur,
ne doit-on pas subir les conséquences de la continuité de l'État?
La continuité de l'État ne veut pas dire que cautionner la forfaiture. La continuité de l'État, c'est mieux faire qu'avant. La continuité de l'État, c'est que vous avez hérité d'un dossier.
Mais à son statut de ministre, peut-il revenir sur un dossier qui a été signé avant par un autre gouvernement congolais et avec l'aval notamment du président de la République?
Mais justement, vous parlez justement de la continuité de l'État. C'est ça, là, aussi, la continuité de l'État. C'est de revoir aussi certains dossiers qui semblent mal ficelés et ne pas continuer de persévérer dans l'erreur. S'il s'avère que pour sceller à Gouli le dossier Somibo, construction de logements préfabriqués pour les militaires est un dossier qui ressemble à des financements illicites parce que on n'y voit pas clair. Déjà, dès lors que vous regardez le dossier, le marché tel qu'il a été octroyé à une entreprise qui n'a jamais fait de construction de ce genre, ça pose vraiment problème. Bon, soit je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais je comprends la responsabilité du ministre des Finances de pouvoir voir clair sur ce dossier. Pourquoi en plus de cela? Parce que l'RDC est en train de se battre pour renouer avec les institutions de Bretton Woods, hein, le FMI, la Banque mondiale. Et vous y voyez des gens qui viendront financer un pays qui a très mal agi avec leur propre argent, leur propre finance publique. Je ne vois pas. C'est aussi important pour eux de pouvoir faire montre d'une certaine clarté, d'une certaine transparence dans la gestion de certains dossiers. Je ne vais pas conclure hâtivement pour dédouaner Somibo ou encore le DG de la Safricas ou encore quelque autre entrepreneur, mais je comprends la démarche de l'État congolais dans ce sens-là de pouvoir rendre ces dossiers potables et transparents. Parce que nous avons tous suivi ici le tollé de la cause de la population. Hein, mais comment se fait-il? Les gens se sont posés des questions. Pour autant d'argent qui sont sortis des caisses de l'État, on n'y voit rien de finissant. C'est compliqué à comprendre, c'est compliqué à savoir. La justice a pris à bras le corps ce dossier et je crois qu'il faudrait plutôt attendre les conclusions de celle-ci pour essayer de voir, de tirer des conclusions aussi à notre tour sur ces dossiers. Mais moi, à mon humble avis, je vois pas du mauvais œil les interrogations du ministre des Finances de pouvoir voir clair dans un dossier qui semble un petit peu
salé. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un peu confusion là, parce que les raisons pour lesquelles ces personnes sont interpellées sont souvent floues, on les accuse même déjà d'avoir détourné. Quand ce n'est pas le cas, on dit que c'est juste un simple audit, mais après on dit que on veut juste voir s'il n'y a pas eu surfacturation. Est-ce qu'il ne peut pas avoir une raison claire et publiquement rendue?
C'était public, hein, le ministre de la Justice a saisi, c'était public, le parquet agit. Ça a été public, donc rien n'est caché. Hein. On veut voir clair dans le dossier de financement des constructions à utilité publique telle qu'annoncée dans le programme des 100 jours. Ça fait partie du travail de redevabilité de l'État. On ne peut pas continuer à financer des éléphants blancs, comme l'a dit Thierry. Hein. On ne peut pas continuer à financer des projets et puis à la fin, on ne trouve rien de fini à la fin. Non. On doit, et c'est nécessaire, je crois, dans un État démocratique, pouvoir à la fois sortir l'argent, mais aussi contrôler l'utilisation de cet argent.
Merci.
C'est tout à fait normal. On dit que le programme de 100 jours n'a pas pu atteindre 70% de financement. Ok, mais ce qui a été décaissé dans la caisse de l'État, qu'est-ce qui a été fait? C'est nécessaire à ce que la justice puisse s'en saisir. Parce que le tollé est général. On voit ce qui s'est passé avec les sauts de moutons sur le boulevard. Les habitants de Kinshasa, on voit ce qui se passe. Vous avez vu ce que la pluie a révélé. On a vu que rien jusqu'à présent, de concret n'est fait. Et pourtant, on parle d'un financement de l'autre 50%.
Merci Thierry Bongo. Charles Mukendi, jusqu'ici, la Lomami n'a pas été notamment retenue pour les logements sociaux, mais j'imagine qu'il y a d'autres projets dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République. S'il y en a, quel est à votre niveau le niveau de réalisation? S'il n'y en a pas, quel est le regard que vous portez sur l'ensemble de ce dossier?
Malheureusement, il n'y en a pas. Bon, il y a les infrastructures, c'est un problème sérieux. Ici, il y a des routes qui sont vraiment cassées. Vous savez, la route Mbujima et Bitou, qui est la nationale numéro 1, qui est en très deux états. Pour ce dossier d'interpellation, je crois au moins que c'est la fin de l'impunité. Je ne crois pas que si c'était aussi clair que le disait le confrère tout à l'heure, Thioyo, par exemple, Freddy Thioyo, tel qu'il l'a dit, si c'était aussi clair, je ne vois pas pourquoi les magistrats qui ont entendu longuement le responsable de, par exemple, Africas, puissent décider à la fin de l'amener jusqu'en prison alors qu'il n'a rien fait. Moi, je crois qu'il faut saluer ces actions. Ça montre qu'il y a une volonté d'arrêter avec les cycles d'impunité. Parce que c'est l'impunité qui a ruiné ces pays. Si nos magistrats ne peuvent pas prendre à bras le corps de tels dossiers, et franchement, nous allons tourner en rond comme nous l'avons fait jusque-là. Donc moi, pour ma part, je salue cette action de la justice, mais qu'ils aillent de l'avant et qu'il y ait, en fait, toute la vérité soit faite autour de ces financements.
Alors Charles Mukendi, pour le cas des Africas, il nous a été rapporté que Safrikas s'est défendu, expliquant que les décaissements adressés à son endroit pour la réalisation de ses travaux ont difficilement dépassé les 40%. Comment, avec ce taux faible de décaissement, Safrikas pouvait-il réaliser notamment les sauts de moutons au moment où il faut et en qualité qu'il faut?
Oui, c'est vrai. Mais c'est une autre question, et c'est de savoir, est-ce que les travaux réalisés, c'est à la hauteur des 30 ou 40%? Est-ce que c'est cela? Bon, moi je me demande pourquoi on devait l'arrêter s'il avait justifié, comme vous le dites. J'estime pour ma part qu'il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond dans ce dossier pour que la justice puisse réellement mettre la main sur son patron. Mais, en fait, il y a des avocats, il y a tout ça, qu'on établisse, qu'on fasse la lumière. Est-ce que les travaux correspondent au montant perçu?
C'est une bonne question. Charles Mukendi, vous êtes toujours avec nous?
Oui, je suis là.
Oui, mais est-ce que, comme vous dites, l'opinion a applaudi des deux bras et des deux pieds, qui est déjà cette tentative d'éclairage, mais est-ce que vous voyez ces actions de justice se poursuivre, ou c'est juste un peu comme font souvent les responsables africains, de la poudre aux yeux?
Oui, c'est tout ce qu'il faut craindre. Il y a eu d'autres actions avant, dans d'autres, bon, avec les autres régimes, et après, ça s'est éteint comme de feu de paille. Est-ce que, bon, en fait, c'est ça la crainte, est-ce que c'est fait pour la consommation extérieure? Parce que on veut démontrer qu'on mène la lutte contre la corruption. Est-ce que c'est fait pour seulement cela? Que ça soit un feu de paille qui va s'éteindre bientôt, ça sera malheureux. Mais cette fois-ci, le souhait est que ça aille de l'avant, que l'on puisse quand même asseoir un état des droits, que ceux qui font du mal puissent être réellement sanctionnés proportionnellement à ce qu'ils ont fait comme dégâts.
Merci Charles Mukendi. Ce sujet est plutôt un point positif, mais évoquons dans notre deuxième thème de ce soir un sujet qui est plutôt un point assez sombre. Plusieurs mouvements de grève sont observés dans un certain nombre de secteurs professionnels en République démocratique du Congo ces derniers temps. C'est le cas notamment des médecins et des professeurs de l'université de Kinshasa. Ils réclament entre autres l'amélioration de leurs conditions salariales. Entre-temps, à l'université de Kinshasa par exemple, les étudiants ne se sont pas tus. Ils ont à leur tour réclamé la reprise normale des activités sur leur campus. Le film Conséquences de ce tête-à-tête à distance, raconté par Grace Amzati.
Les étudiants campaient devant les bureaux administratifs l'avant-midi de ce lundi pour exiger la reprise effective des cours comme prévu quand ils ont constaté qu'il n'y avait aucun professeur dans les auditoires. Dans leur chant, ils disaient notamment « Nous ne voyons pas de professeurs, nous ne voulons pas une année blanche ». Pourtant, annoncé pour ce lundi, la reprise des cours à l'Inikin coïncide avec la grève des professeurs, ce qui suscite l'inquiétude des étudiants.
Je suis d'abord en retard, je devais commencer mon stage, mon TFC, mais jusque-là, le professeur ne donne aucune position sur la reprise effective des activités académiques.
Le secrétaire général académique, lui, reste optimiste. Il affirme que certains professeurs sont disponibles pour enseigner et appelle tous les étudiants qui sont encore à la maison à venir au cours. Professeur Eustache Banzansomé.
Il y a certains professeurs qui dispensent leur matière. Et nous demandons aussi à ceux-là qui sont encore à la maison de venir.
Un appel qui semble avoir reçu un écho favorable, en tout cas du côté de certains enseignants. Le professeur Chimpwe Lebon a bien dispensé ce lundi matin son cours des grands problèmes politiques internationaux contemporains en deuxième licence relations internationales. Il explique pourquoi il se démarque des autres professeurs.
Moi, c'est mon point de vue. J'avais voulu qu'on reprenne d'abord les activités, qu'on donne un préavis au gouvernement. Vous êtes en grève à l'Unikin, mais on vous trouve dans des sociétés privées en train d'enseigner. Vous sacrifiez les enfants de l'Unikin.
La quasi-totalité d'enseignants s'était en revanche absente. Jusque dans l'après-midi, les étudiants traînaient encore sous les arbres et devant les auditoires pour les attendre. Mais rien n'indiquait qu'ils se présenteraient.
Charles Mukendi, nous avons terminé le premier sujet avec vous. Nous relançons ce deuxième thème avec vous également. Vous êtes rédacteur en chef de la radio catholique d'Itunga à Ngandangika, province de l'Omami. Que vous inspire ces grèves multiples et multisectorielles dans le secteur public en ce moment au pays?
Moi, je crois que la grève est tout à fait légitime lorsque on n'a pas les conditions qu'on devait avoir. Mais je crois que c'est devenu récurrent, plusieurs grèves à la fois. C'est à la hauteur des attentes. Les gens, avec les changements intervenus à la tête du pays, la population, les travailleurs avaient beaucoup d'espoir, beaucoup. C'est cet espoir qui fait qu'aujourd'hui, chacun qui a fait croire au changement veut que les choses changent sur le plan social, surtout qu'on a dit que c'était le peuple d'abord. On a vu dès les débuts des mouvements presque dans presque toutes les entreprises. Chacun voulait l'amélioration de sa condition, de ses conditions de travail, tout de suite. Et c'est à la hauteur de l'impatience. Ça fait longtemps le peuple congolais est paupérisé, a droit également à avoir quelque chose de normal. C'est toute l'attente. Lorsqu'on a voulu l'alternance, on voulait aussi que les conditions soient améliorées, que le social suive. Donc, je crois qu'au-delà de cette attente-là, il y a lieu d'être aussi réaliste, c'est-à-dire tout ne peut pas se faire en un seul jour. Il faudrait qu'on puisse regarder correctement. Tantôt qu'on réclame l'amélioration, tout de suite on voit également des gens refuser de donner l'impôt. Chez les privés, c'était déjà presque l'habitude, on perçoit l'impôt, bien qu'on n'en connaît pas, parfois on n'en connaissait pas jusque-là la destination. Mais refuser de donner cet impôt à l'État et demander en même temps l'amélioration de vécu, c'est vouloir une chose et son contraire. Mais moi, je crois qu'il faudrait qu'on puisse imposer, même chez les politiciens. Il y a un moment, vous entendez les politiciens en train de rouspéter pourquoi on veut retirer dans nos émoluments, dans nos salaires. Je crois que c'est demander une chose et son contraire.
Merci Charles Mukendi. Thierry Bouongo, journaliste à Africa TV, télévision qui émet de Kinshasa. Ces grèves, comme je disais, multiples et multisectorielles, serait-ce un peu un dérapage au droit de manifestation, ou selon vous, l'État a véritablement fauté et est à la base de ce type de mouvement?
Bon, par rapport à ça, j'aimerais juste dire que les professeurs d'université sont des citoyens comme tout le monde. Ce sont des gens, des Congolais, qui ont eu un certain avantage lié à leur fonction, et ils ne peuvent en aucun cas décréter un mouvement de grève parce qu'ils seraient obligés de faire ce que tout citoyen moderne et modèle devrait faire.
L'État n'aurait-il pas un peu fauté là? Parce que dans le cas des professeurs d'université, on sait qu'ils ont des revendications qui sont assez anciennes.
Exactement.
Comme l'utilisation d'un taux qui soit réel par rapport à leur salaire et des manques à gagner qui datent de plusieurs sessions.
C'est ce que je voulais dire. En réalité, c'est que s'ils font ces mouvements de grève, c'est qu'ils ont réfléchi dessus. Et leurs revendications traînent depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois dans le bureau des responsables politiques. Et la réalité, c'est que quand l'État a décidé unilatéralement de pouvoir retirer l'IPR sur leur salaire, ils l'ont fait sans consulter effectivement ces mêmes professeurs. Et en réalité, le salaire, quand on retire l'IPR, est-ce que ce salaire est complet? Est-ce qu'on paye l'allocation familiale? Est-ce qu'on paye les indemnités de transport? Est-ce qu'on paye les différentes rubriques qui composent le salaire? Parce que le salaire brut en soi, ce n'est pas ça le salaire. Hein? Quand on est professeur d'université, comme quand on est fonctionnaire de l'État, il y a plusieurs rubriques liées au salaire. Est-ce que l'État paye toutes ces rubriques-là pour qu'il puisse se permettre de pouvoir retirer l'IPR aussi facilement? Est-ce que quelque part, le fait que l'État ne payait pas ces rubriques-là, c'est c'était un retrait pratiquement tacite de l'IPR sans qu'on le sache. Parce que c'est un droit. Le salaire est un droit acquis. On ne peut pas du jour au lendemain décider de le changer ainsi. C'est vrai que ce sont des réformes. On a besoin de pouvoir engraisser la caisse de l'État. On comprend la volonté. Mais mieux le faire serait aussi de pouvoir reprendre la totalité de ces rubriques que compose le salaire. Les professeurs d'université sont en droit de pouvoir réclamer une amélioration sociale. Personne ne peut vouloir quitter de 1000 pour régresser à 800. Hein? Le Congolais, ou plutôt tout être humain, je veux dire ainsi de manière générale, a tendance à pouvoir améliorer ses conditions de vie et non les régresser. Et aujourd'hui, avec le taux flat qui est un petit peu flottant que nous vivons aujourd'hui, ce salaire en francs congolais est un salaire qui est en ballottage pendant toute une année. Vous commencez l'année avec un salaire qui est évalué à un taux de 16 600 le franc congolais, mais que vous terminez l'année à 21 peut-être. Comprenez un petit peu les pertes que nous sommes en train de en tant que fonctionnaires sont en train de vivre chaque jour dans ce pays. En réalité, l'État congolais est parti vite en besogne. Je crois que les professeurs ont raison d'aller en grève. Ils ont totalement raison.
Et quel est votre avis sur la grève des magistrats et la grève des médecins notamment, par exemple?
Bon, la grève en réalité est un droit. C'est un droit. On ne peut pas refuser à une société de personnes de pouvoir s'arrêter et de discuter avec l'employeur ou la personne qui les paye sur les conditions sociales de chacun. L'homme a pour objectif dans la vie d'améliorer ses conditions de vie. Hein? On peut aujourd'hui dire, voilà, tu es payé 100 dollars, ça te satisfait aujourd'hui, mais ça te satisfera pas demain. Il est de nature à l'être humain de pouvoir améliorer ses conditions de vie. Donc, que ce soit les magistrats, que ce soit
les médecins,
de fonctionnaires de l'État, hein, ils sont en droit de réclamer des meilleures conditions de vie dans leur vécu quotidien. L'élément principal, et c'est ce qu'on doit dire, c'est que la fluctuation économique amène à ce que chaque mois, les gens puissent revoir leurs revenus à la baisse. Et c'est ça qui amène justement les grèves. C'est ça le vrai problème. Si aujourd'hui on arrive à pouvoir baisser le taux du dollar, par exemple de 1700 à 920, comme il le fut laissé par Adolphe Mouzito à une certaine époque, eh ben vous comprendrez que beaucoup de mouvements de grève vont s'arrêter de même. Mais le problème est effectivement économique.
Merci.
Le panier ménagère a augmenté, a pris de la flambée. Il y a pratiquement, le salaire en soi est en train de maigrir chaque mois. Et les prix montent chaque jour. Comprenez à ces gens, ils sont des êtres humains, ils ont droit à vivre aussi.
Merci Thierry Bongo. Freddy Chioyo, rédacteur en chef du média en ligne election-net.com. Quelle est votre analyse de cette facilité à la grève à laquelle on assiste ces derniers temps? Est-ce l'effet un peu pervers du droit reconnu maintenant à la manifestation?
Ben, en fait, il faut d'abord reconnaître que ce sont des faits inhérents à un nouveau mouvement au sommet de l'État. C'est les effets de la coalition. Ce sont parfois des mouvements fomentés dans les officines politiques pour tenter un peu de barricader un peu la bonne marche des institutions nouvellement mises en place. Il faut intégrer ça dans une dimension aussi politique que sociale, même si je partage la douleur des professeurs, parce que le salaire est sacré, tout le monde a besoin d'un salaire décent, et c'est un droit inhérent à la personne humaine qui travaille et qui a droit à des salaires conséquents. Cependant, Contrairement à ce que dit Thierry Bongo, l'État congolais ou le gouvernement est allé trop vite en baisant, mon cher, là, je pense que ça c'est un faux. Parce que lorsqu'on élabore un budget, il y a des commissions préalables, il y a des commissions d'études qui élaborent le budget, qui tiennent compte de tous les paramètres donnés, et puis il y a des réunions préalables à l'élaboration du projet budgétaire au niveau du gouvernement.
Mais il y a des commissions
qui sont mises en place, qui travaillent d'abord la mouture,
avant
de l'amener au gouvernement pour amendement ou pour endossement.
Freddy Tchoyo, votre argument ne serait-il pas un peu faible quand on sait les réajustements réguliers qu'on fait à de nombreux programmes du gouvernement qui sont aussi réfléchis, oui, ficelés, qui sont le résultat des réunions, notamment l'enseignement, la gratuité de l'enseignement qui a connu, oui, beaucoup de mouvements de démarrage, de redémarrage, de freinage, de révision, de réactualisation. Donc dire que ça a été étudié, ficelé, publié dans les documents, c'est pas suffisant, non?
Non, mais écoute, je pense que là, tu m'aides un peu, tu m'emportes encore l'eau au moulin, quand tu évoques la chute de la gratuité de l'enseignement. Alors, cet effet gratuit de l'enseignement, ça ne peut qu'impacter sur beaucoup des secteurs, vous comprenez un peu? Alors, aujourd'hui, je ne suis pas contre les mouvements des corps sociaux de notre pays. C'est normal, ce sont des revendications légitimes. Mais je pense que l'IPR a été voté au Parlement. L'IPR n'est pas l'invention tacite comme ça. C'est un document qui a suivi la procédure normale des commissions d'études au gouvernement pour endossement, au Parlement pour vote du loi et puis promulgation finalement. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que l'IPR doit créer les tollés?
Alors l'IPR, Freddy Tchoyo...
Soit les gens étaient distraits lors du débat au niveau de l'Assemblée ou au Sénat, ou bien les gens suivent les informations.
Freddy Tchoyo, l'IPR n'est qu'un élément, mais la plupart de ces mouvements de grève réclament surtout des meilleures conditions salariales, donc un bon salaire.
Je vais bien, c'est l'heure de réclamer. Mais est-ce que on doit, du coup, d'une baguette magique, améliorer sensiblement ou sensiblement les salaires de tous les Congolais? Je pense que c'est vrai, nous sommes dans un pays où tout est prioritaire, il n'y a pas des secteurs à négliger, mais je pense qu'il faut aller un peu crescendo.
Alors, vous dites,
à part ça aussi, politiquement, je me dis que tant que on n'aura pas mis des nouvelles têtes au niveau des régies financières, on va tâtonner. Comment est-ce que il n'y a pas pratiquement 5 ans que le conseiller spécial de sécurité de blanchiment des capitaux, le jour de l'ambilé, ça veut dire que 15 milliards, c'est comme ça dans la nature chaque année. Et comment font ambiler les 11 milliards du budget? Et là, on a une trésorerie qui nous ramène à 5 milliards en termes de réalité socio-économique. Donc vous voyez quelque part, il y a une main noire politiquement qui voudrait un peu créer un peu des mouvements sociaux afin de jeter un peu de l'opprobre aux institutions.
Alors, Freddy Tchoyo, nous sommes déjà en train de conclure.
Ceux qui sont à grève, c'est leur droit de revendiquer, mais je pense qu'il faut... un peu de la méthode dans ces revendications, c'est pas d'un matin on se réveille, commence à réclamer tout à haute voix.
Merci Freddy Tchoyo, je considère ça comme étant votre conclusion. Thierry Bongo, entre un peu de mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de nos deux sujets de ce soir?
Premièrement, par rapport au premier sujet, je suis un petit peu dubitatif du fait que 9 mois sans gouvernement a laissé en place une sorte de flou artistique dans la passation des marchés publics, et aujourd'hui, s'il y a tant d'enquêtes dans ce secteur-là, pour se normaliser peut-être aussi aux exigences des institutions de Bretton Woods, c'est parce que pendant 9 mois, on a géré le pays de manière unilatérale depuis un cabinet quelque part à Mongalema ou au fin du boulevard Tchatchi. Deuxièmement, j'aimerais dire que à mon frère Tchiyoyo, que c'est vrai, il y a des travaux, il y a des textes de loi, effectivement, qui sont votés chaque jour. L'IPR n'est pas une invention de l'année ou du budget 2020. C'est une loi, c'est une taxe, c'est un impôt qui existe depuis plusieurs années. Et si elle n'a pas été appliquée, c'est parce que dans la discussion sociale qui se fait entre l'État et ses employés, on fait toujours des réajustements par rapport à l'application de certaines lois. Et si on n'a pas pu appliquer l'IPR totalement sur toutes les couches sociales parce qu'elle est appliquée dans d'autres secteurs, c'est parce que l'État lui-même était conscient qu'elle ne ferait pas un salaire décent à ses employés. Merci. Et qu'elle ne peut pas se faire prévaloir de sa propre turpitude.
Merci Thierry Bongo. Charles Mukendi, rédacteur en chef de la radio catholique d'Itunga, Ngandajika, province de l'Omami. Votre conclusion pour nos deux sujets de ce soir?
En tout cas, j'encourage les efforts qui sont faits par les autorités actuellement pour lutter contre la corruption dans les pays. Et également, je demande j'attire l'attention sur la problématique du retour des Ngandajika au Kasaï oriental, parce qu'on craint qu'il y ait radicalisation.
Merci Polydor Basunga, Kéline Kouté, Axel Goncho m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Tribune de presse pour ce soir, c'est fini. Merci de votre attention. Au revoir.